Notre invité du matin, c'est Yves Deleux, directeur général du groupe Melchior, qui édite les nouvelles calédoniennes. Bonjour.
Bonjour, Elisabeth.
Merci d'accepter notre invitation alors que l'on annonce la mise en liquidation du groupe Melchior et donc des nouvelles calédoniennes. C'est un coup de tonnerre, hein, même si on savait que le titre n'allait pas très bien. À titre personnel, d'abord, comment vous réagissez? On imagine que c'est un moment difficile.
Oui, parce que j'étais venu il y a 5 ans reprendre la direction des nouvelles calédoniennes pour les sortir effectivement du déficit dans lequel elles étaient déjà, puisque depuis la constitution du groupe Melchior il y a 9 ans, il n'a cessé de perdre de l'argent. Mais on n'a jamais réussi, je dirais, malgré des restructurations, des plans de départ, on n'a jamais réussi à effectivement à juguler les pertes. Et donc on est arrivé, je dirais, il y a quelques jours à la conclusion que nous devions cesser de creuser les pertes.
Alors voilà, il y a quelques jours, parce que tout le monde a été un peu surpris par la brutalité de l'annonce, un communiqué vendredi matin qui indique que le groupe Melchior demande sa mise en liquidation. Vous étiez obligé de faire les choses très vite, hein?
On est obligé de faire les choses très vite parce que c'est compliqué d'annoncer plusieurs semaines à l'avance qu'on va demander la liquidation parce que plus personne ne voudrait travailler avec nous, les salariés ne voudraient plus travailler, etc. Donc c'est compliqué, aurait du mal à travailler dans ce contexte et donc on a été obligé effectivement de faire les choses de manière non pas précipitée mais rapide.
Alors le tribunal de commerce va se prononcer le 16 mars mais en fait c'est inéluctable, la mise en liquidation elle est faite, elle est décidée quoi.
Ah, le tribunal est souverain, donc s'il a peut-être une autre solution à proposer ou si quelqu'un se présente pour dire qu'il y a une autre solution, le tribunal reste maître de sa décision. Ça, je ne peux pas préjuger de ce qu'il dira.
Alors, quand même, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On rappelle qu'en avril 2021, vous aviez été placé en procédure de sauvegarde. Ensuite, depuis le 1er janvier dernier, le journal était publié uniquement en version numérique et vous aviez un magazine hebdomadaire papier. Cette formule, ça n'a pas pris, ça n'a pas suffi à redresser la situation.
Oui, ça n'a pas suffi. Alors, pour reprendre la date d'avril 2021, il faut savoir qu'à l'époque, on est déjà en situation quasi de cessation de paiement. Donc quand on prend cette décision en 2021, ça permet de geler le remboursement de nos dettes et de réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc, il faut reprendre l'histoire. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on réfléchit à un nouveau modèle. Mais on essaie aussi de trouver de nouveaux partenaires financiers, des gens qui veuillent investir dans les nouvelles pour relancer le titre sur peut-être une base davantage numérique. Donc, avril 2021, janvier 2023, je dirais qu'on a gagné du temps, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et effectivement, la nouvelle formule... autant sur les abonnés, on a eu une stabilité du nombre d'abonnés. Sur le magazine, une petite déception en termes de diffusion, mais ça restait quand même une diffusion payante, la plus importante de Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est compliqué, mais voilà. Donc, 4000 abonnés, c'est bien, c'est un beau score. Si on rapporte ça à l'échelle nationale, ça fait 1 million d'abonnés. Hein. Mais... ce n'est pas suffisant pour faire vivre une offre de presse quotidienne écrite.
Alors, sans revenir, sans refaire l'historique complet, avec le recul, il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été faites à un moment ou à un autre, ou c'est parce qu'aujourd'hui, la fin du papier, c'est inéluctable, la fin d'un quotidien, c'est inévitable.
S'il y a eu des erreurs stratégiques de fait, je crois que toute la presse les a faites, hein, puisque toute la presse est en très mauvais état, en particulier la presse locale, départementale, régionale. C'est pas tout à fait le cas de la presse nationale, hein, qui se porte plutôt bien. Par exemple, Le Monde a 600 000 abonnés numériques et vend 100 000 exemplaires papier. Donc on voit bien que eux ont réussi leur mutation, mais parce qu'ils sont sur un bassin de population de 66 millions d'habitants, voire d'un milliard de francophones. Là où nous, on est sur un bassin de population de 270 000 habitants, et c'est toute la difficulté de la presse régionale. Le président du syndicat de la presse quotidienne régionale m'a écrit pour me dire cette situation n'est pas unique en France, elle est même commune dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Je rappelle que la Dépêche de Tahiti aujourd'hui ne travaille plus qu'avec 6 journalistes et n'est plus qu'un site internet et vient d'être pris.
On dit justement qu'en Polynésie, il y a 2 quotidiens, mais c'est pas véritablement le cas.
Il y a un quotidien à Tahiti Info qui doit diffuser 1 ou 2 000 exemplaires et il y a quelqu'un qui a repris courageusement, je dirais, le titre La Dépêche que j'ai eu au téléphone hier et qui effectivement fait travailler 6 journalistes mais perd beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien de temps il va pouvoir perdre cet argent.
Alors, est-ce que vous avez eu une aide de la part de l'État ou localement de la part des institutions? Est-ce qu'il y a des investisseurs locaux qui ont été tentés de vous sauver, de faire quelque chose, d'intervenir? Ou est-ce que ça s'est fait un peu dans, entre guillemets, l'indifférence générale ou l'impossibilité, en tout cas, de venir à votre aide?
Il y a beaucoup de gens qui me disent, il faut pas que ça s'arrête, c'est dommage, etc. On va faire quelque chose. Bon, on attend. Chez les politiques, l'État, je dirais, a fait ce qu'il fait pour l'ensemble de la presse. Donc, on était inscrit dans un dispositif qui est l'aide pérenne au titre d'outre-mer. Donc, on avait notre quote-part de cette aide, qui allait peut-être nous être supprimée, d'ailleurs, cette année, puisqu'on n'était plus papier. Donc, l'État, d'une part, demande à la presse d'avoir un impact environnemental moins fort, mais dès que quelqu'un arrête de faire du papier et de faire tourner des camions toutes les nuits pour s'y distribuer le journal, on le pénalise. Donc, l'État n'est parfois pas tout à fait cohérent dans ses politiques. Donc ça, c'est un signal aussi que l'État nous a envoyé, c'est que la seule subvention dont on bénéficiait allait vraisemblablement être divisée par 10 cette année. Donc c'était quelque chose qui a pesé aussi dans la balance, puisqu'on avait établi un budget sur cette base-là. Et puis je dirais que les politiques locaux... en fait, en démocratie saine, il ne faut surtout pas que les journaux soient financés par les politiques locaux. Mais ce que l'on attend des politiques, c'est qu'ils ne créent pas, par du sursubventionnement, des distorsions de concurrence avec d'autres médias.
Et là, il y en a eu. Vous estimez qu'il y en a eu des
oui,
distorsions?
Oui, il y en a, il y en aura, effectivement. C'est un choix de société, c'est un choix de modèle de société, de subventionner tous les organes de presse.
Alors,
et d'information.
Quelles conséquences aujourd'hui en termes de personnel? La disparition des Nouvelles-Calédoniennes, du gratuit, des IRN, c'est combien de personnes concernées au total?
C'est 120 salariés. Donc je rappelle que NRJ continue d'émettre, hein, puisque c'est une société qui équilibre ses comptes, donc qui continuera d'émettre. 120 salariés de différents métiers. Donc ce sont des gens, pour beaucoup, très impliqués, qui ont tout donné, qui aujourd'hui sont très déçus, tristes, mais qui ont beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu besoin de lancer un appel, mais je le lance quand même, pour que spontanément des chefs d'entreprise, des groupes calédoniens proposent des postes à différents salariés. Donc je dirais que beaucoup d'entre eux sont déjà en train de rebondir, et ça m'étonne pas, parce que ils ont un mental très fort.
Oui, qu'est-ce qui est prévu? Il y en a qui ont été reclassés, il y en a, c'était un peu prévu cette situation, il y en a qui vont partir à la retraite, on imagine. Globalement, au chômage vraiment, et dans quel corps de métier, puisque vous recouvriez quand même un certain nombre d'activités, quoi?
Bah, on a des ouvriers d'imprimerie, effectivement, mais là, il semblerait qu'il y ait quelques besoins. De toute façon, il y avait des boulots qui étaient faits par les IRN pour des clients tiers et qui vont forcément aboutir dans d'autres imprimeries. Donc, ces imprimeries vont avoir besoin de personnel pour les réaliser. Il y a des journalistes nombreux. Alors ça, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, il y aura peut-être pas la place pour 25 ou 30 journalistes, hein, mais certains vont se recaser dans d'autres secteurs. Il y en a peut-être qui en ont assez du journalisme. Bon, voilà. Puis il y a tous les métiers support, comptable, etc. Là, je suis pas inquiet, parce qu'il y a déjà des propositions sur ces métiers-là. Il y a déjà des propositions.
Et de toute façon, tout a été prévu pour les indemnités de départ, de licenciement de la plupart du personnel.
Oui, parce que si nous avons pris cette décision, c'est pour faire en sorte de ne plus creuser le déficit. Alors, comme on était en sauvegarde, on avait l'obligation de présenter un budget conforme au plan de sauvegarde, et dans ce budget, on n'avait pas prévu de perdre de l'argent. Et donc, à partir du moment où on creusait le déficit et on faisait de nouvelles dettes, on se mettait quelque part hors la loi. Et donc, c'est aussi ça qui a provoqué la prise de décision rapide, c'est qu'il y avait un vrai risque pour les dirigeants de l'entreprise de se mettre hors la loi, et pour l'entreprise en elle-même. Donc voilà pourquoi on a pris cette décision.
Et depuis vendredi, quelles sont les réactions que vous avez enregistrées, aussi bien du personnel, de vos abonnés, du personnel politique peut-être en Nouvelle-Calédonie?
Très peu de réactions des politiques, donc je n'ai pas eu beaucoup d'écho de réactions des politiques. Sur le personnel, il y a des gens qui sont en colère, évidemment, contre la direction, et je le comprends. Il y a des gens qui sont tristes, la plupart, et qui me l'ont fait savoir, mais qui ont estimé qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait, et qui étaient fiers de ce qu'on avait fait, et qui finalement en retireront aussi des choses positives, parce que maintenant, j'aurais dit, vous savez maintenant ce qui marche et vous savez ce qui ne marche pas, parce que dans tout ce qu'on a fait, il y a plein de choses qui ont marché. Il y a quelques trucs qui n'ont pas marché, il a manqué de l'argent au final, mais il y avait quand même des nouvelles pistes qu'on a explorées et qui fonctionnaient. Donc il y a des gens aussi qui sont forts de ces expériences et qui vont en profiter dans le futur.
Les témoignages aussi de vos abonnés, on imagine, on entend, c'est l'un des sujets dont les gens ont parlé ce week-end, la disparition des nouvelles, c'est quand même un événement.
Alors oui, c'est sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a annoncé le plan de sauvegarde, il y avait eu beaucoup de réactions de haine. Tant mieux, c'est bien fait, vous l'avez bien mérité, blablabla. On sortait de la période du Covid, donc il y avait peut-être des gens qui nous en voulaient d'avoir pris des positions fermes sur le Covid. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup plus de tristesse, de compassion, de bienveillance et de gens qui disent c'est triste, etc. Pour les salariés, c'est triste pour les fidèles lecteurs, c'est triste pour la démocratie, c'est triste pour l'information, pour le métier de journaliste. Enfin bref, et j'ai vu très peu de gens qui se réjouissaient de la chose, ce qui n'avait pas été le cas lorsqu'on avait annoncé qu'on avait des difficultés importantes.
Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le calendrier? Le 16 mars, c'est le tribunal du commerce. Vous allez encore publier un dernier exemplaire des nouvelles?
Eh bien, il y aura un journal donc dématérialisé le 16 mars au matin. Je tiens à signaler quand même qu'on a sorti en version dématérialisée le magazine avec un remarquable dossier de Anthony Tegero sur la crise des requins, qui donne des explications sur les nouveaux comportements des requins et qui est vraiment une enquête très fouillée qui correspond à l'ambition qu'on avait assignée à l'équipe sur le magazine, et le magazine d'ailleurs était en train de monter en puissance à mon sens, mais malheureusement il n'avait pas encore trouvé son public et ça devenait compliqué. Voilà, après donc l'équipe de rédaction se fait fort et je dirais fera son baroud d'honneur, et elle va continuer à sortir le quotidien en version numérique jusqu'au jeudi 16 au matin. Mais à 8h30 après la décision du tribunal, si elle s'y prononce la liquidation, nous ne serons plus les maîtres des lieux. Les salariés devront quitter les lieux, rendre les clés, et ce sera le liquidateur judiciaire qui à ce moment-là prendra la main et prendra toute disposition pour payer les salariés, les soldes de tout compte et rembourser les créanciers.
Les perspectives, vous pensez qu'un nouveau quotidien pourra avoir le jour en Nouvelle-Calédonie, ou que la période de la presse écrite est définitivement terminée, de la presse écrite quotidienne?
Ça dépend si on parle de la presse écrite ou de la presse écrite papier, parce que je crois que les modes de lecture sont en train d'évoluer, et que de moins en moins de gens achetaient des journaux de papier, mais de plus en plus de gens lisent des choses sur leur téléphone. Donc il y a un public là qu'il faut reconquérir, qu'il faut convaincre qu'une offre d'information payante a un sens, parce qu'elle garantit effectivement l'indépendance de ceux qui la font.
Yves Delot, directeur général du groupe Melchior et des Nouvelles-Calédoniennes, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci Elisabeth, c'était un plaisir.